À ONU, Caroline Brouet, cette semaine avec
Bruno David, biologiste et paléontologue et par ailleurs ancien président du Muséum national d'histoire naturelle.
Premier épisode, naturaliste de père en fils. Bonjour, bonsoir à vous Bruno David.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir dans ce splendide bureau du Muséum national d'histoire naturelle dans le Jardin des Plantes à Paris. On a fermé les fenêtres mais on entend le bruit du vent dans les arbres qui nous entourent. Ce bureau, c'est encore le vôtre pour quelques heures, puisqu'au moment où nous enregistrons ces avoinus, fin août 2023, vous vous apprêtez à quitter votre poste de président du musée, ce musée étant consacré aux sciences naturelles, d'où son nom de muséum, poste que vous occupiez depuis 2015. Un poste qui vous revient naturellement, si vous me permettez ce jeu de mots, car vous avez voué toute votre vie aux sciences naturelles, de la terre ou de la mer, tout comme la défense de la biodiversité, c'est comme ça qu'on dit maintenant, en votre qualité de naturaliste, de paléontologue, de biologiste, et vous êtes spécialiste de biologie évolutive, et il va falloir nous expliquer ça au cours de ces 5 entretiens. Ce bureau n'a donc pas toujours été le vôtre. Avant de le rejoindre, vous étiez à Dijon, vous dirigiez l'unité biogéosciences du CNRS. Dans le cadre de vos recherches, vous avez participé à plusieurs missions océanographiques dans un sous-marin, en l'occurrence le Nautil, c'était au fond de plusieurs océans. C'est aussi ça, le métier, le travail de naturaliste. Mais vous êtes aussi capable de vous tenir assis face à un ordinateur, en témoigne un certain nombre d'ouvrages à destination du grand public. Je peux citer « À l'aube de la sixième extinction » ou « Le jour où j'ai compris », deux livres sur lesquels nous reviendrons aussi au cours de cette semaine. Et puis vous êtes aussi capable de vous asseoir devant un micro, puisqu'à côté de très nombreuses conférences que vous donnez régulièrement, vous aimez vous mettre en scène devant un public, vous avez un petit côté cabot, eh bien vous avez tenu différentes chroniques sur notre chaîne, sur France Culture, et ce à partir de 2020, ça s'est d'abord appelé Le Monde Vivant, c'est devenu le titre d'un livre, puis de deux livres, puisqu'il y a une suite, et puis le pourquoi du comment, la science. C'est aussi, en version plus longue, le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là, qui va nous occuper toute la semaine, et en particulier aujourd'hui pour ce premier épisode qui vise à comprendre ce qui a fait que vous êtes devenu l'homme que vous êtes devenu. Si je vous pose cette question de façon abrupte, Bruno David, vous diriez quoi ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, à votre avis ?
Si je le savais, peut-être que je serais devenu autre chose. Non, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions. C'est les bifurcations qu'on a au cours de l'existence. J'ai dit à un moment que j'aurais jamais dû être président du muséum pour plein de raisons. Mais la première des raisons, c'est que quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais assez distrait et j'ai oublié de me faire recenser par l'armée française. Et que j'ai été un jour convoqué à la gendarmerie de la commune où je résidais, qui était Villeurbanne, à côté de Lyon. Et que cette gendarmerie, on était en pleine guerre froide, m'a dit « Bah écoutez, vous êtes recensé d'office, vous partez faire votre service militaire cet automne. » Alors que j'étais programmé pour faire à l'époque un DEA, puis une thèse en néotectonique, c'est-à-dire la tectonique récente dans les Caraïbes. C'était une thèse financée par une grande compagnie pétrolière française. J'étais programmé en quelque sorte pour faire une carrière de géologue pétrolier, ce qui m'aurait sensiblement éloigné de la biodiversité et ce qui m'aurait sans doute éloigné définitivement du muséum.
N'empêche que vous avez commencé par la géologie, la tectonique, enfin commencé. Vous étiez tout jeune, en l'occurrence, à peine une vingtaine d'années à ce moment-là.
Oui.
Donc ça veut dire que quand même, il y avait un attrait pour les sciences, déjà. Peut-être pas donc l'écologie. J'allais vous demander si ce qui avait été premier, c'était l'écologie ou la science. De fait, c'est plutôt la science. Science de la Terre, d'ailleurs, tectonique.
Oui, c'était les sciences de la Terre. C'était plus les sciences de la Terre. En fait, quand j'étais encore, quand j'étais vraiment adolescent, post-adolescent, quand je me suis retrouvé étudiant, mon idéal, qui était un idéal vraiment inatteignable d'ailleurs, et un peu stupide et décalé par rapport au temps, ça aurait été d'étudier, d'avoir une île déserte et de pouvoir tout regarder sur l'île déserte. La géologie, les animaux, les plantes, les fonds marins, le sommet des collines, et de tout faire, en fait, d'avoir une sorte de terre vierge et d'aller à la découverte de cette terre vierge dans toute sa dimension naturaliste. Alors évidemment, c'était totalement impossible, même au XXe siècle, on n'en était plus là, et c'était un rêve totalement irréalisable. Donc j'ai beaucoup hésité, Je me suis plutôt embarqué dans une carrière et dans des disciplines qui portaient sur les géosciences, sur les sciences de la Terre. Et puis au bout de quelques années de pratique au CNRS, bah finalement, on y reviendra sans doute, mais je me suis orienté de plus en plus vers les aspects biologiques, vers le vivant, vers la vie et ses mystères, parce que ça me paraissait tellement insondable que je ne pouvais pas me détacher de cela. Mais j'ai toujours gardé une petite attache avec les sciences de la Terre, au-delà du fait que mon père lui-même était géologue et que donc j'avais aussi une forme d'atavisme à travers cela.
Père géologue, votre volonté de tout regarder, disiez-vous, d'observer tout ce qui vous entourait, plus la vie et ses mystères, peut-être on pourrait dire que ce qui a fait ce que vous êtes devenu aujourd'hui, Bruno David, c'est votre curiosité.
C'est le mot que j'avais à la bouche, j'allais vous le dire. Je pense que ce qui m'a toujours habité, c'est d'être curieux. Et je regrette qu'on perde un petit peu cette curiosité aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être dans le dernier épisode à propos du muséum, où j'essaye de prôner la curiosité et d'essayer de faire en sorte que nos concitoyens retrouvent cette curiosité d'enfant qui ne devrait jamais nous quitter. Je pense que c'est une qualité qu'ont les enfants. Les enfants sont curieux par nature et c'est quelque chose qu'on oublie quand on grandit. Et c'est vraiment dommage. Moi, j'espère que ça m'a jamais trop quitté. C'est pour ça que j'ai fait de la recherche aussi, parce qu'on ne peut pas faire de la recherche sans être curieux. Et puis, ça m'a amené finalement à la tête de cet établissement, ce qui n'était pas prévu par le constructeur au début.
Le constructeur étant en l'occurrence donc vos parents.
Voilà.
Père géologue, on peut dire quand même que sans être tombé dans la marmite quand vous étiez petit, vous êtes tombé dans un terreau fertile, pour poursuivre la métaphore.
Oui, bien sûr. Non, j'avais deux parents naturalistes. J'avais même un oncle et une tante naturalistes. Donc franchement, pour échapper aux sciences de la nature, c'était pas simple. Néanmoins, mon frère y a échappé, mes cousines y ont échappé. Donc c'était possible encore. Hein. C'était pas écrit d'avance non plus. Je pense que le mérite de mes parents, et notamment de mon père, ça a été de me montrer à quel point l'histoire naturelle pouvait être belle, mais sans m'y inciter plus que cela. C'est-à-dire sans m'en dégoûter, en quelque sorte. Il a su doser l'intérêt que je pouvais porter au monde vivant, au monde des cailloux aussi, au monde de la géologie, sans aller au-delà d'une certaine limite qui m'aurait braqué, en quelque sorte, comme on peut braquer un adolescent en essayant de lui montrer que l'histoire d'Henri IV, c'est formidable.
Où viviez-vous ?
Je suis né à Lyon, en face, dans une clinique qui est en face du lycée où j'ai fait toutes mes études de la 6e à la terminale, qui est le lycée du Parc. Et j'ai grandi, en fait, à Villeurbanne, aux confins de Villeurbanne même, dans un endroit qui s'appelle Cusset et qui est le lieu où vivaient déjà mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, et où mes parents se sont installés. Ils ont, quand j'étais jeune enfant, ils ont construit une maison juste à côté de la maison de mes grands-parents, ce qui veut dire qu'on est... Et dans cette nouvelle maison, il y avait aussi mes autres grands-parents, ce qui veut dire qu'on avait une cellule familiale où tout le monde était regroupé. Et pour un enfant, c'est extraordinaire. Vous avez vos quatre grands-parents, vos deux parents au même endroit.
Vous aviez des grands-parents maraîchers d'un côté et puis marchands de vin de l'autre?
Oui.
C'est ça? De quoi vous souvenez-vous à propos de ces grands-parents? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Comment ils vivaient? Et est-ce que, puisque vous viviez avec eux d'une certaine façon, vous viviez tous ensemble, presque, pas tous ensemble dans la même pièce, mais en même temps tous ensemble au même endroit, disons. De quoi vous souvenez-vous de leur façon d'être et de vivre qui a pu aussi infuser en vous les étés en Haute-Loire et tout ça?
Alors, ils étaient assez différents des deux côtés. Du côté de mon père, j'avais une grand-mère qui était... assez cultivée, je pense qu'il avait en partie raté, entre guillemets, sa vie, puisqu'elle était maraîchère. Je pense que c'est... Une fois qu'on est adulte, on se rend compte un peu des choses. Je pense que les relations avec son mari n'étaient pas spécialement heureuses. Et j'avais un grand-père de ce côté-là qui se désintéressait de ses petits-enfants, qui n'était pas vraiment un grand-père, qui était peu présent, on avait très peu d'interactions avec lui, enfin... La grand-mère, par contre, était très aimante. Elle nous laissait même tout faire. On a même largement exagéré. Hein. Franchement, on a dépassé les limites assez régulièrement. Et du côté de ma mère, j'avais des grands-parents qui étaient plus stricts, mais qui étaient présents vraiment tous les deux. Et pourtant, ma grand-mère n'était pas ma grand-mère, puisque ma grand-mère biologique était morte en couche en donnant naissance à ma mère. Donc, je l'ai évidemment jamais connue. Hein. Elle était morte bien avant ma naissance. Et c'était une fausse grand-mère. Bien qu'à l'époque, je ne l'ai pas su, parce que c'était quelque chose qui ne se disait pas dans les familles. Alors, je l'ai appris plus tard, en étant adolescent, mais c'était une grand-mère qui a été une grand-mère formidable, et un grand-père qui a été un grand-père très proche. Et il passait la moitié de l'année à Lyon, enfin en région lyonnaise, avec nous, l'hiver, et l'été, pendant 6 mois de l'année, ils étaient en Haute-Loire, qui était aussi le berceau de leur famille, qui était le berceau de la famille du côté de ma mère. Et je me rappelle toutes les ans de ces vacances en Haute-Loire un peu magiques, aller chercher des escargots, des champignons, se balader. enfin, aller à la pêche avec mes grands-parents. Enfin, ça a été des moments assez fabuleux, vraiment partagés avec ces deux grands-parents, qui pourtant étaient bien plus stricts que ma grand-mère paternelle.
Et le grand-père, justement, qui vous montrait des choses, pareil, dans la nature, il vous expliquait, il vous donnait des noms d'arbres, d'animaux, ou
non,
tout était libre à vous de découvrir
ce que non, pas tant que ça du côté de mes grands-parents. Non, mes grands-parents ne m'ont pas spécialement instruit du côté de l'histoire naturelle.
C'est plus les parents.
C'est beaucoup plus les parents.
Beaucoup plus vos parents.
Beaucoup plus mes parents, oui. Puis qui m'ont laissé faire aussi, qui m'ont amené à des endroits. Et puis, mais ma curiosité était très aiguisée. Rétrospectivement, je me dis, en tant qu'enfant, j'étais quand même peut-être un enfant un peu bizarre par certains côtés. J'étais capable de passer 2 heures sur des laisses de mer au bord de la plage, alors que j'avais 6 ou 7 ans.
Vous traquiez des insectes aussi?
Ah ben ça m'est arrivé aussi de traquer des insectes dans le jardin.
Aujourd'hui, on ne le fait plus beaucoup, mais enfin, à l'époque, on le faisait beaucoup.
Dans le jardin, ailleurs. Oui, effectivement, on n'avait pas la même relation à la biodiversité, qui ne s'appelait pas encore biodiversité, mais j'avais un filet à papillons, j'attrapais des papillons, j'épinglais des papillons dans des boîtes. Ça a duré un temps. J'ai jamais eu la collectionnite chevillée au corps non plus. Il ne fallait pas me voir comme une sorte d'enfant qui était obnubilé par les sciences naturelles, par les petites bêtes et les petites plantes. Ma préoccupation majeure, c'était quand même le vélo et le ballon, hein, franchement.
Que les choses soient claires. Mais est-ce que vous posiez des questions? Par exemple, votre père, il travaillait sur les bryozoaires.
Les bryozoaires.
Et bon, vous voyez, j'ai essayé de le dire correctement. Donc déjà, qu'est-ce que c'est?
Alors les bryozoaires sont des petits animaux microscopiques qui sont coloniaux. Si vous mangez des moules, vous voyez parfois qu'il y a une sorte de feutrage gris à la surface de la coquille de la moule. C'est une colonie de bryozoaires. Chaque petit point microscopique est un animal indépendant. Ça forme une colonie. Ça peut être des colonies en forme de buisson également. Donc évidemment, dès que j'avais 4 ans, je savais prononcer bryozoaire et ornithorynque, comme tout enfant de 4 ans doit le savoir.
Absolument. Mais est-ce que vous posiez des questions? Ou est-ce que... Vous regardiez, mais vous n'aviez pas la nécessité ou la volonté de comprendre tout de suite.
Non, je posais pas mal de questions. Je pense que j'étais un enfant qui posait beaucoup de questions. Enfin, je ne pense pas, je suis certain que j'étais un enfant qui posait beaucoup de questions. Puis il faut avoir conscience aussi que la maison était habitée d'une foultitude de livres concernant l'histoire naturelle en général. J'avais des livres qui étaient bourrés d'images sur l'histoire naturelle. Donc j'étais dans cet environnement, dans ce terreau, comme vous disiez, qui était assez fertile. C'était pas une nécessité derrière que je devienne naturaliste, mais c'était une possibilité et finalement une probabilité non nulle.
On a parlé de votre père, mais votre mère donc était aussi naturaliste. Que faisait-elle?
Alors ma mère était professeure dans un lycée de jeunes filles à l'époque, à Lyon. Elle était professeure d'histoire naturelle, était agrégée de sciences naturelles. Elle travaillait beaucoup. C'était une mère par certains aspects un petit peu distante. Pas une mère hyper affectueuse, comme on peut imaginer une maman très câline, présente, bien sûr, mais avec un petit peu de distance. C'était peut-être lié à son histoire personnelle, je ne sais pas, le fait qu'elle ait perdu sa mère à la naissance. Psychologiquement, je ne me l'explique pas. C'était une mère qui a toujours été présente, mais avec cette forme de distance, qui était peut-être aussi dans l'esprit du temps, hein, où les parents étaient un petit peu moins présents. Et mon père, qui était un peu plus distant dans la très tendre enfance... J'ai eu une forme de révélation de la proximité qu'il avait avec nous, parce qu'avec mon frère était concerné de la même manière, quand je suis rentré au lycée à peu près. Hein. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, mais finalement, mon père, finalement, il est proche de nous, il s'occupe de nous, il interfère. Et je l'ai réalisé, il le faisait sans doute avant, mais quand on est enfant, on ne réalise pas toujours ce qui se passe autour de nous, et là, je l'ai vraiment réalisé.
Vous vous souvenez de l'ambiance à la maison? C'était comment? C'était joyeux, c'était festif, ou c'était sérieux? Vos parents travaillaient beaucoup? Comment ça se passait?
C'était une ambiance plutôt sérieuse, mes parents travaillaient beaucoup, il n'y avait pas de télévision à la maison, il n'y avait pas d'écran, donc le soir, ils travaillaient dans leur bureau, mais ma mère préparait ses cours, mon père aussi, je pense, et ils écoutaient de la musique classique. Avec mon frère, on était dans notre chambre, à l'autre bout du couloir, on entendait cette musique un peu à distance, et on avait le droit de lire jusqu'à 8h30 ou 9h moins quart, mais pas plus tard. Après, c'était extinction des feux. Alors, il y avait une forme d'austérité, en quelque sorte, dans la façon d'aborder le travail. Puis un exemple de... Bon, on travaille beaucoup. Après le repas, on travaille.
Ce qui est sûr, c'est que vos deux parents partageaient un même amour pour leur métier. Et ça,
oui.
Peut-être aussi, c'est quelque chose qu'ils vous ont transmis, même involontairement, indirectement.
Bah, ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'université en étudiant les sciences naturelles tous les deux. Donc forcément, ils étaient attirés par les sciences naturelles tous les deux, alors que même ils venaient de familles, notamment ma mère, où l'histoire naturelle était quand même assez distante, assez éloignée. Et à l'époque, les femmes qui s'orientaient vers les sciences naturelles, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Donc oui, c'est un peu quelque chose d'un peu atypique quand même.
Alors projetons-nous dans ces années 50, 60, du côté de Villeurbanne, où vous avez grandi, Bruno David, et parlez-nous de vos premiers émois, de, pas amoureux, mais des découvertes dans la nature, justement. Parlez-nous de la découverte de, je sais pas, par exemple, carabes dorées, parce que ça nous fait rêver quand on les connaît pas, ces petites bêtes.
Oui, alors là, par exemple, mon premier souvenir d'un carabe... Bien sûr, on en a parlé un peu avant, parce que sinon, vous ne l'auriez pas su simplement en me regardant. C'était dans le jardin de mes parents, autour d'un massif qui était un massif de forme triangulaire, où il y avait des fleurs à l'intérieur. Je ne me rappelle plus si c'était des tulipes ou des roses, mais enfin, c'était un massif de fleurs qui était cerné par des bordures en fibrociment ondulé. Et en fouinant dans ce massif, à partir de la bordure du massif, je découvre cet insecte qui est un carabe, qui est un coléoptère, qui est un véritable petit bijou. Ça ressemble à une émeraude, en fait. Hein. C'est un vert chatoyant, parce que c'est une couleur minérale, c'est pas une couleur pigmentaire, si on parle un peu de technique. Donc c'est simplement la diffraction de la lumière à travers un réseau très très fin qui va renvoyer des couleurs à des verts mordorés. Et je trouve cet insecte, et je me souviens très bien de mon père me disant « mais c'est un carabe ». Donc c'était une forme de découverte de... fascination pour cet animal, et je trouve qu'on peut être tellement bien et facilement fasciné par le monde qui nous entoure que franchement, on peut revenir à la curiosité, ouvrons nos yeux.
Et ça, c'est pas le Bruno David d'aujourd'hui, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, pour quelques jours, quelques heures même encore, qui le dit. C'est aussi le petit enfant qui était émerveillé, c'est aussi l'adolescent qui était émerveillé, et c'est aussi l'étudiant en sciences naturelles qu'il était, dans une époque... Encore une fois, vous peut-être se replonger dans cette époque-là où on ne parlait pas du vivant, comme on en parle aujourd'hui, on ne parlait pas de biodiversité, c'est un terme des années 80, on y reviendra au cours de cette semaine. Donc on ne considérait pas le monde qui nous entoure de la même façon qu'aujourd'hui.
Oui, ça c'est certain. Alors maintenant, vous dites le petit enfant, le jeune, l'enfant un peu plus âgé, l'adolescent, le jeune adulte, c'est la même personne, c'est toujours moi. Donc peut-être que je suis ce qu'on appelle un néothénique dans le développement, c'est-à-dire que je suis resté enfant, au moins spirituellement, parce que physiquement, non, ça a changé un peu quand même. Mais peut-être que spirituellement, je suis resté un petit peu le même. Alors je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. J'ai des côtés peut-être un peu enfantins dans la manière dont je regarde le monde qui nous entoure et que j'ai su conserver cette curiosité de jeunesse.
Mais par exemple, pour aller un peu plus loin... Aujourd'hui, quand on parle de souvenirs qui furent les vôtres, par exemple, vos grands-parents allant, comme les autres personnes de leur entourage, jeter des ordures dans les rivières, c'est quelque chose qui peut choquer vos oreilles. À l'époque, tout le monde le faisait. Et ça ne vous choquait pas plus que tous les autres enfants qui regardaient les adultes faire ça.
D'abord, quand on est enfant, on n'est pas étonné, trop étonné par ce que font les adultes.
Surtout quand c'est normal.
Ça paraît normal. Surtout quand tout le monde le fait. Donc oui, c'était comme ça. Mais bon, les ordures passaient dans la Loire quand on était... Enfin, moi, je le voyais quand j'étais en vacances en Haute-Loire, hein, au bord de cette Loire, de partie haute de la Loire, qui est encore une rivière un petit peu sauvage. Mais ces ordures ne se voyaient pas dans la rivière. C'était des ordures organiques, c'était des épluchures, en fait, hein, pour l'essentiel. Donc il n'y avait pas grand-chose qui arrivait dans la rivière, à part des épluchures et quelques autres poulets emballés dans du papier journal.
Et pourquoi on les jetait dans la rivière?
Parce qu'il n'y avait pas de ramassage d'ordures. Il n'y avait simplement pas de ramassage d'ordures dans le village. C'était un village de 500 habitants, il n'y avait pas de ramassage d'ordures, il n'y avait pas de collecte des ordures ménagères, donc les gens jetaient les ordures, soit les déposaient dans un dépôt d'ordures à proximité, mais qui donnait directement sur la rivière, soit les jetaient du haut du pont pour ceux qui habitaient à proximité du pont et de la Loire, ce qui était le cas de mes grands-parents. Mais si je peux revenir sur un autre souvenir, parce que ça me revient maintenant, de cette partie de mon enfance en Haute-Loire, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, et là je m'en souviens vraiment, c'est l'odeur des peupliers en bord de rivière. Et chaque fois que je passe à côté de peupliers, il y a une odeur très particulière des peupliers, je me remémore ces parties de pêche en bord de Loire à travers simplement cette odeur. C'est très proustien, hein, mais c'est comme ça, c'est vraiment ça. Et je me remémore ça et je me revois avec mes grands-parents avec cette odeur des peupliers en bord de Loire.
Il y en a ici dans le jardin des plantes ?
Non, il y a peu de peupliers dans le jardin.
Vous n'avez pas demandé à ce qu'on en plante ?
Non, j'ai pas été jusque-là. Je ne me permets pas de donner d'ordre sur les plantations du jardin des plantes au-delà d'une certaine limite qui a été qu'on fasse une prairie fleurie sous mes fenêtres plutôt que de raser la pelouse.
Vous disiez, Bruno David, que vous étiez aussi entouré de livres de sciences naturelles, de livres d'histoire naturelle. En particulier, vous, vous aviez des livres d'images, je suppose, livres d'images dans les années 60. Alors, je ne sais pas, c'était l'anatomie du corps humain, c'était quoi que vous aviez ?
Mais il y avait beaucoup de livres d'histoire naturelle, de vulgarisation d'histoire naturelle, qui étaient des livres, en fait, pour adultes, mais que j'adorais feuilleter. Et je me souviens de séries de livres, de collections de livres sur, je m'en rappelle un, qui s'appelait « La machine humaine ». Alors, c'est un peu mystérieux pour un enfant, « La machine humaine ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça décortiquait l'anatomie, la physiologie, il y avait des tas de dessins, enfin, je me passionnais pour ça. Il y avait toute la série des livres de Pierre-Paul Grasset, qui était à l'époque professeur au muséum, et il y avait un livre qui, le dernier volume, s'appelait « La montée vers l'homme ». Alors, ce qui est totalement faux, enfin, après, en travaillant sur l'évolution, je me suis rendu compte que c'était une vision complètement fausse de l'évolution. Mais néanmoins, quand on est enfant, la montée vers l'homme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il y avait une sorte de vision linéaire de l'évolution, avec l'homme au sommet de l'évolution, après tous les singes, enfin, en passant par toutes les étapes qu'on voulait. Et je me souviens encore de ces livres.
Ces livres, ils vous ont suivi jusqu'à la fac, d'une certaine façon, puisque vous avez choisi la fac de sciences. Et la science, c'était la science de la Terre, comme vous le disiez tout à l'heure. Et vous disiez à quel point, pour vous, ça avait été quand même un déclic, ces sciences de la Terre, qui n'étaient pas forcément ce que vous aviez prévu de faire au départ. Mais les sciences de la Terre, quand vous arrivez en fac de sciences, c'est comme une révélation. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Quand j'étais encore jusqu'en terminale, j'étais un élève, je dirais, standard, et je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire plutôt dans le domaine scientifique. J'étais pas suffisamment performant en maths et en physique pour m'orienter vers une grande école, maths sup, maths spé, et puis un parcours de ce type-là. J'ai hésité à faire médecine ou pas médecine. Finalement, je me suis retrouvé en fac de sciences un peu par hasard. Et j'aimais bien à la fois la biologie et les sciences de la Terre. Le hasard a fait qu'en discutant avec des professeurs en fin de deuxième année, je me suis plutôt orienté vers les sciences de la Terre. Ça s'est passé comme ça. Et puis voilà. Et puis après, ce sont des bifurcations qu'on prend dans la vie. Une fois que la bifurcation est prise, bon, ben c'est un petit peu irréversible. C'est difficile de revenir en arrière. On commence pas, difficile de recommencer à zéro. Donc les dés étaient lancés. Mais ce qui s'est produit, c'est que quand je suis arrivé à l'université, le déclic en question, en terminale, je subissais en quelque sorte les cours et ce qu'on m'enseignait assez correctement, puisque j'ai passé mon bac, enfin, j'ai pas jamais redoublé, enfin, tout allait bien. Hein. Mais de manière très standard. Et quand je suis arrivé à l'université, il y a eu une forme de déclic, et je me suis mis à tout comprendre et à tout absorber un petit peu par anticipation, à être beaucoup plus actif dans la manière dont j'entendais ce que l'on me racontait. Et ce qui fait que je me suis retrouvé, sans être trop orgueilleux, en tête de promo, et que j'ai terminé premier de ma promotion sur 600 en première année de fac. Ça a été pareil en deuxième année, etc. Il y a eu cette forme de déclic intellectuel que je ne m'explique pas, je ne sais pas du tout.
Vous l'expliquez pas, je ne sais pas, ni par la discipline, ni par l'enseignement, des professeurs étonnants.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être le mode d'enseignement par rapport au mode d'enseignement plus scolaire d'un lycée, où les professeurs sont plus distants à l'université. Je ne sais pas l'expliquer, mais je me suis mis brutalement à comprendre, y compris des champs disciplinaires qu'on m'enseignait, notamment en première, deuxième année, et même au-delà, dans le domaine des maths, par exemple, des mathématiques. J'ai fait un certificat de mathématiques appliqué à la biologie, mais j'aurais pas parié un copec là-dessus quelques années avant. Et j'ai même eu, je crois, une mention très bien à ce certificat. Enfin, c'était assez incroyable. Et je n'en suis pas encore revenu. Je ne sais toujours pas ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là.
Vous l'avez accepté tel quel.
Ah ben, c'était plutôt un beau cadeau.
Alors, en l'occurrence, c'était un beau cadeau, c'était même une belle récompense. Vous nous avez raconté au début de cette première émission, Bruno David, votre bifurcation principale dans ces années de jeunesse, que fut l'armée française qui vous a rattrapé. Donc vous êtes parti faire votre service militaire, mais comme scientifique du contingent, c'est ça ?
Alors, ça a été une histoire un peu compliquée. Je suis parti dans le service de santé des armées. Donc j'ai fait mes classes dans la ville de Nantes. Comme deuxième classe en service de santé, j'ai appris à porter des brancards, à faire des garrots, je suis devenu secouriste, j'étais infirmier militaire. Et pour la suite de mon service, j'étais programmé pour l'Allemagne, j'ai profité d'influence, disons, pour être versé dans le service de santé des armées. Et j'ai fait mon service militaire dans un centre de recherche du service de santé des armées. Alors c'est vraiment l'endroit auquel je m'attendais assez peu quand même. Et on m'a mis à disposition d'un capitaine, qui était un jeune capitaine, qui avait une trentaine d'années. Et les chercheurs dans le service de santé des armées avaient un gros avantage. On leur donnait des soldats, enfin des appelés du contingent, pour les aider dans leurs tâches de recherche. Et je me retrouve donc avec ce capitaine qui me fait faire de la biologie moléculaire. sur une enzyme du sérum humain, je vais oser prononcer le nom dans la radio, qui s'appelle la butyrylcholinestérase, un nom imprononçable, qui est une enzyme du sérum humain qui ressemble à une autre enzyme, qui est l'acétylcholinestérase, qui est essentielle pour la transmission du signal nerveux entre nos neurones. Et c'était en vue d'une guerre chimique, interdite par la Convention de Genève, au passage. Et donc j'ai passé 10 mois à travailler sur la butyrylcholinestérase, à essayer de comprendre la structure de cette protéine. Et c'était quelque chose que je détestais quand j'étais à l'université. Faire de la biochimie moléculaire, pour moi, c'était un repoussoir. Et je me suis rendu compte à quel point, finalement, ça pouvait être intéressant. Et je me suis intéressé à ce que je faisais. Et à partir de là, ça a été une grande leçon de vie, parce que c'est vraiment à partir de ce moment que j'ai compris que les choses n'étaient pas intéressantes en elles-mêmes. Elles étaient intéressantes par l'intérêt qu'on leur portait. Et c'est nous qui rendons les choses intéressantes. Si on s'intéresse à quelque chose, ipso facto, cette chose devient intéressante. Et à peu près n'importe quoi peut être intéressant. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais je peux faire n'importe quoi, il suffit que je m'y intéresse, et ça va marcher. Alors je ne suis pas allé au bout complètement de mes propos, je ne me suis pas reversé dans le juridique, ou dans je ne suis pas devenu avocat, ou je n'ai pas fait autre chose, mais je me suis dit, mais tout est intéressant dans la vie, il suffit que je m'y intéresse vraiment. Et je me suis mis à m'intéresser à des tas de choses, alors plutôt dans le domaine de l'histoire naturelle, puisque j'étais lancé sur cette piste-là, mais j'étais prêt à tout faire.
D'une certaine façon, vous devez à votre service militaire le goût de la recherche.
Je dois beaucoup de choses à mon service militaire, parce que je lui dois de ne pas être parti en néotectonique, de ne pas être devenu un affreux géologue pétrolier qui aurait pollué la planète, d'avoir eu une sensibilité à la biodiversité que je n'aurais sans doute pas eu de la même manière, en tout cas si j'avais été géologue pétrolier, et puis d'avoir fait cette bifurcation en direction de l'histoire naturelle, de m'être intéressé à tout, et finalement d'être aujourd'hui, pour quelques heures encore, dans ce magnifique bureau.
Vous êtes parti à Dijon faire une thèse.
Oui.
Une thèse sur les oursins fossiles du Crétacé, c'est-à-dire des oursins qui datent de il y a 130 millions d'années. C'est-à-dire que là, vous vous êtes lancé dans la paléontologie, et c'est ça qui vous a fait découvrir la biodiversité, mais on y reviendra un peu plus tard. Juste avant l'émission de demain, qui portera précisément sur les oursins, parlez-nous de cette passion pour les oursins, puisque vous y avez quand même consacré 37 ans de votre vie.
Alors, c'est pas une passion.
Je ne suis pas
tombé dedans quand j'étais petit. Alors après, je me suis passionné pour les oursins.
Oui, c'est ça.
Mais c'était pas une passion initiale.
Ah non, personne n'a dit ça.
Voilà. Donc, c'était pas une passion initiale, mais ça...
Ça l'est devenu.
Ça l'est devenu. C'était vraiment l'adage de mon service militaire. C'est-à-dire, si je m'intéresse à quelque chose, cette chose va devenir intéressante. Elle devenait même passionnante. Donc, il se trouve malheureusement qu'il y avait une dame qui était chercheuse au CNRS dans les années 70, qui était spécialiste des oursins du Crétacé et qui est décédée prématurément. Elle était à Marseille, elle est décédée prématurément. Et quand je suis parti à Dijon, parce que je ne pouvais pas rester à Lyon du fait de la proximité de mon père, donc il a fallu que je m'expatrie, en quelque sorte. J'ai fait cette thèse, à l'époque de troisième cycle, sur les oursins fossiles du Crétacé des Alpes du Sud, de la région de Castellane. Ben, je me suis pris de passion pour ces oursins et finalement j'ai fait toute ma carrière sur les oursins qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on pourrait croire au premier abord quand on se pique les pieds sur quelques oursins.
Vous avez même consacré alors un livre à côté des 37 ans de recherche et de travail, un livre qui s'intitule, puisqu'il est à destination de tout le monde, Les oursins messagers de l'évolution. C'est-à-dire que les oursins nous disent beaucoup plus que simplement des choses sur eux-mêmes. Ils nous disent des choses sur le développement des espèces et sur l'évolution avec un grand E.
Oui, mais les oursins, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'il y a à peu près 1000 espèces d'oursins dans les mers actuelles, qu'il y a bien plus de 1000 espèces d'oursins fossiles qui ont été décrites, et que les 1000 espèces d'oursins qui peuplent les mers actuelles aujourd'hui sont aussi différents entre eux qu'une souris est différente d'un zèbre. Il y a une diversité absolument incroyable. Nous, on a tendance à voir uniquement les oursins qu'on mange ou sur lesquels on se pique. Mais il y a énormément d'oursins qui vivent enfouis à différents endroits, à toutes les profondeurs, enfin il y en a partout.
C'est ce qu'on verra dans l'épisode 2, Bruno David, sur la trace des oursins. Rendez-vous dans cet épisode, rendez-vous demain, par exemple.
Par exemple.
Pour ceux et celles qui nous écoutent à la radio, pour ceux et celles qui nous écoutent en podcast, l'épisode 2 est donc à suivre sur la trace des oursins. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Benjamin Thiot. Réalisation Charlotte Roux, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.